Donc si vous voulez voir une belle expo de Rosendoli, ça se passe à la mairie de Tournefeuille jusqu'au 14 février. Allende, Neruda, portrait, figure d'Amérique latine, et puis également à la médiathèque de Tournefeuille à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 février. Danseur, blessure. C'est autour de ces deux expos que nous allons échanger avec Rosendo. Et puis aussi, pourquoi pas autour du portrait, puisque le samedi 8 février, à la médiathèque de Tournefeuille, Rosendo, tu donneras une rencontre, une conférence sur le thème « Le portrait peint ou dessiné, lignes, couleurs, contours et détours ».
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle « Cuba Hoy », terre de rencontre.
Oui. C'est un festival qui ça date déjà depuis longtemps, hein. C'est la 17e édition, mais ça élargit jusqu'à tous les pays de l'Amérique latine. Hein. Si on voit bien les programmes, il y a du Mexique jusqu'au Chili, mais comme à la base c'était les fondatrices qui sont allées à Cuba, ils ont nommé Cuba Hoy parce qu'à l'époque il y avait une espèce d'effervescence sur la musique cubaine. Bon, maintenant, ça continue, mais c'est diversifié. Donc, il y a les expositions, il y a des conférences, des stages de danse. Et bon, je vous invite à voir sur les sites de l'association Yemaya, Cuba Hoy, à Toulouse. Donc, les points forts sont les 7, 8 et 9 février.
Voilà. Alors, Rosendo, par laquelle de ces expositions on commence ? Peut-être celle qui est la plus politique ?
Oui. Hein ? Alors, c'est à la mairie des Tournefeuille, mais ce n'était pas par des questions de calendrier électoral, non ? Parce que maintenant, toute la France, il y a des calendriers électoraux. Mais c'était parce que il y avait l'espace qui avait été prévu pour une exposition donc des portraits. Et comme ce sont des portraits plus petits, c'est plus intime, c'est des rapprochements spatiaux qui sont des formats A4 et des formats A2. Donc pour les néophytes, je signale que les A3 sont des 30 pour 40 centimètres.
La 4, c'est la feuille sur laquelle on écrit souvent, hein, c'est la feuille de la ramette, quoi. Hein,
c'est ça. 4, ouais. Et donc, il fallait pas un espace trop long, trop grand, non? Tandis que pour les danseurs, que c'est l'exposition qui se trouve à côté, à 5 mètres, à la médiathèque, c'est vraiment une salle adaptée pour des grands formats.
Tu fais beaucoup hein, de grands formats.
Ah oui, bon, la mégalomanie à part, c'est aussi parce que et c'est une manière assez de se détacher de la contrainte de où je vais l'exposer et de est-ce que si je vais le vendre. Donc, comme ces deux problèmes sont évacués au moment de faire des grands formats, et on est complètement libre. Hein. Et libre dans le sens de la création, mais pas libre dans le sens de le stockage.
Ah oui, tu veux dire que tu te mets cette contrainte pour te dire de toute manière il pourra pas être vendu, c'est quelque chose voilà. Que tu veux évacuer de ton esprit ça.
Oui, parce que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts du Pérou, et notre grand hantise c'était de survivre, hein. C'est-à-dire que tous les étudiants là-bas, bon, étudiants pauvres, c'est un pléonasme, hein. On est et pour l'artiste, c'est encore un triple pléonasme parce que la plupart des artistes, nous sommes pauvres et nous n'arrivons pas à vivre de notre création. Donc, en étant étudiant de Beaux-Arts, je me suis dit, comme pas mal de mes collègues, non, et qu'il fallait survivre. Non, nous faisions des travaux à côté des boulots, parfois n'avaient rien à voir avec l'art. Hein. Bon, moi, j'optais pour l'enseignement même sans avoir fini mes études parce que c'est une manière de miser ou d'évacuer la question économique.
Ouais.
Et même si on savait que la mode, la phrase, c'était « bon, les professeurs, ceux qui enseignent sont des artistes ratés », nous, on s'en foutait de ça parce que on préférait se dédier à la création et si on arrivait à vivre ou à vendre, donc c'était mieux.
Tu faisais du dessin de presse aussi,
oui,
non
pour dessin de presse, oui.
Ça aussi, ça a aidé à mettre du beurre dans les épinards ou ça payait pas spécialement le dessin de presse parce que ça t'a valu l'exil, hein.
Oui, ça m'a valu l'exil. Oui, vraiment.
Mais est-ce que ça payait
Oui, il y avait une petite rémunération, mais comme toutes les associations, comme tous les journaux militants n'arrivent pas à vivre comme les autres journaux. Donc, il y avait aussi une espèce de sacrifice, disons, par notre temps et notre dédication, mais surtout par la persécution qu'on pouvait subir à cause des autorités et aussi à cause du terrorisme, parce que nos victimes, si on pourrait dire, qui étaient cible de notre plume, de notre dessin, c'était aussi les éléments subversifs ou fanatiques.
Tu te rappelles, enfin j'imagine que oui, tu te rappelles, mais est-ce que c'est un dessin en particulier qui t'a valu l'exil?
Oui,
ou est-ce que c'est
oui, je me souviens.
Une somme de, bon, mais, de dessins?
C'était une accumulation. J'étais déjà sur les coups ou sur le, l'œil de la police parce que.
Et on est en quelle année?
Repéré.
On est en quelle année?
Les années 80, hein, 83, 84. Donc c'est en pleine explosion de la subversion des sentiers lumineux et aussi de une police parallèle, une police politique. Et les dessinateurs, nous collaborions avec un journal qui ne se mariait pas ni avec la répression de l'État, ni non, et non plus avec le fanatisme pseudo-politique, parce que vraiment c'était terrible. Et donc nous, bon, pour répondre à ta question, c'était s'il y avait un dessin en particulier. Oui, il y avait un dessin en particulier, mais c'était, disons, la goutte qui a
fait déborder le vase.
Ouais. Déborder le vase. C'était que, en prévoyant l'anniversaire d'un des leaders charismatiques de la guérilla, j'avais déjà dans mon dessin annoncé qu'il allait faire des attentats. Et même, je signalais une petite séquence où lui, il s'est moqué de la police, et que la police venait l'interroger. Donc, il faisait son explosion, et la police d'intelligence, entre guillemets, et l'interrogeait sur Mao, lui répondait sur Mao, parce que c'était une inspiration maoïste. Et alors, la police croyait que Mao, c'était un commerçant chinois du quartier chinois, et pour montrer l'ignorance. Donc, nous, et moi, tapé sur les deux abrutis, non?
Ouais.
Et donc, et là, comme, effectivement, l'attentat est arrivé, et ils ont dit, bon, ces messieurs-là, qui se nomment Rosendolil, pensaient que c'était un pseudo, hein, parce que j'ai commis peut-être la naïveté, ou, pour moi, c'est, à l'époque, c'était évident.
T'as pas pris de pseudo, quoi.
Non, j'ai pas pris de pseudo.
Ouais.
Et donc, la police a dit, donc, que si l'attentat s'est produit, c'est parce que lui, il savait. Donc, on m'a recherché, mais moi, je me cachais, je n'étais ouais. pas au rendez-vous que le commissariat ou la police politique m'a convoqué.
T'y as été quand même à un moment ou à un autre, tu t'es retrouvé au trou, comme on dit.
Ah non, non mais je me suis retrouvé au trou, mais par une autre raison, c'est-à-dire que j'étais encore adolescent, et il fallait faire une invasion de terrain parce qu'il devait être cédé d'une manière injuste
aux militaires. Un promoteur, à des militaires.
Militaires, ouais. Oui, tandis que ce terrain devait être plutôt assigné à des autres travailleurs sociaux qui avaient cotisé pour. Donc, j'ai envahi avec d'autres.
C'était militant, quoi.
Ah oui, oui, oui. Et donc, parfois, quand je, avec les reculs, je regarde ça et je me dis que quand on est jeune, on réfléchit pas. Mais heureusement que parfois, on réfléchit pas.
Ouais, parce qu'il y a une inconscience, là.
Oui, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le courage. Le courage, hein, c'est plutôt que quand tu es dans cette effervescence et tu ne réfléchis pas et tu n'as pas le choix. Mais je pense que si la France ou si ça se trouve à une situation pareille, je pense que la situation te force à faire des actes que parfois tu vas dire c'est courageux. Mais non, c'est pas du courage, c'est que tu n'as pas le choix.
Parlons de liberté d'expression, puisque c'est ça qui t'a valu à un moment l'exil. T'es ici, donc accueilli en France, où tu peux dessiner ce que tu veux, poser ce que tu veux. On parle de plus en plus, que ce soit dans la presse, que ce soit pour les humoristes, que ce soit pour tout le monde, hein, de restreindre un petit peu cette liberté d'expression. Pour toi, elle a une limite, elle a pas de limite?
Oui, mais avant de répondre à cette question, j'ai une pensée pour François Cabana, qui vient de décéder. Oui, un grand écrivain pour moi, et aussi un grand humoriste, malgré ses sujets graves, hein, mais aussi il était dessinateur, mais avant tout c'était un écrivain. Donc pour la question, s'il y a une limite, oui, je pense qu'il y a une limite, on peut pas rigoler de tout. parce que cette limite évolue. Et ça pourrait être flexible en fonction d'un contexte, en fonction de ce qu'on appelle une morale, non? Mais pas la morale dans le sens réactionnaire qui surveille les morts et qu'il faut être toujours avec Dieu, la famille, la patrie, etc. Mais plutôt une morale sur l'élévation de l'esprit, sur les biens sociaux, non? Les biens communs. Et si ces biens communs est blessé par une quelconque déclaration ou par une quelconque image, je pense que la liberté s'est recréée. Mm-hmm. Je ne sais pas si je arrive à répondre à ta question, Rémi.
Je ne sais pas.
Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, c'est moi qui pose des questions.
Oui, mais tu es confronté aussi à niveau de la...
Je pense que justement, on vit dans une société où je pense qu'il est important de pouvoir... moquer, se moquer, mm-hmm. être moqué, voilà, je pense que c'est important parce que effectivement, sinon, si on doit toujours faire attention à telle ou telle ou telle communauté, au bout d'un moment, il y a tellement de communautés qui sont agglomérées pour former cette nation qui est la France, qu'à un moment, on ne va plus se moquer de personne, quoi. Mmh. Je vais pas me moquer de toi parce que tu as une ascendance chinoise, alors je pourrais, je sais pas, me moquer cette partie-là de toi.
Je pense que ces limites et ces repousses, hein, comme je te disais, ça pourrait être flexible. La moquerie par rapport à l'origine ou par rapport à une couleur des peaux, etc. Et je pense que les propres, entre guillemets, victimes sont ceux qui se moquent le plus, non? Sont peu que par l'autodérision. Mais je ne pense pas que la censure va plutôt de ces côtés-là, mais c'est plutôt quand tu attends, tu vas blesser l'autre dans l'essence d'une...
Dans sa croyance et dans sa culture.
Oui, mais quand cette croyance intervient dans les affaires républicaines, comme par exemple dans les affaires de l'intégrisme religieux, et c'est là qu'il faut défendre la liberté d'expression.
Toi, avec tes dessins, ici, tu continues d'être subversif?
Je réfléchis, parce qu'il y a depuis presque 4 ou 5 ans que je ne fais pas des dessins de presse comme je le faisais avec la publication Point Gauche, parce que cette publication m'a donné un rythme et une peut-être pression agréable pour aller au conseil municipal et écouter tout ce qui se disait au conseil municipal de Montauban. Et j'avais un rythme et un délai de publication qui m'obligeait à le faire. Maintenant, je continue à le faire, mais d'une manière peut-être privée, sur mon carnet de voyage, que je l'appelle de voyage parce qu'il est toujours avec moi. C'est plutôt, je le fais plutôt pour une santé personnelle parce que c'est une manière de compenser l'absence de communication qui me manque pour la peinture, parce que dans la peinture c'est un langage beaucoup plus codé, beaucoup plus poétique, beaucoup plus suggéré. Et je pense
il y a pas un peu de subversif, enfin c'est pas un peu subversif ta peinture, je sais pas, cette tendance à être souvent dans les choses du sexe, de la nudité, même du sexe explicite, je veux dire.
Oui, mais l'explicité, si on pourrait dire le côté trop explicite du sexe ou d'un acte sexuel, je pense que ça varie selon les spectateurs, hein. Parce que ce que pour nous pourrait être une suggestion, par exemple, c'est des dessins qu'on a fait à la Place Nationale pendant les fêtes de Noël. Pour moi, le sujet principal, c'était les dons. Alors, pour moi, un des dons principaux qu'on peut faire à un être ou à un autre être, c'est l'amour et l'acte désintéressé de l'amour. Mais je pense qu'il y avait quand même une espèce de voile, pas de pudeur, mais plutôt des lignes et des tâches qui suggéraient l'acte sexuel, mais pas d'une manière crue. Donc, cette limite va être interprétée par un ou par l'autre comme pornographie ou comme érotisme. Donc, chacun va avoir ses propres limites. Mais de ce côté-là, je ne crois pas être subversif. Parfois, je me remets en cause et je me dis, si je ne suis pas plutôt dans la décoration ou plutôt dans faire de l'acte joli, je doute. Hein,
ce serait le comble, être dans la décoration. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui...
Oui, parce que ça, c'est faire plaisir seulement à un client ou à soi-même de la manière superficielle, tandis que la beauté va plus...
Pourtant, quand on regarde alors le portrait qu'a...
Et Carillo, Isolina Carillo. Oui.
Carillo, voilà, on a une belle peinture. Alors, je dis pas que c'est décoratif, mais c'est un portrait qui...
Oui, je l'admets.
C'est une certaine beauté, pareil pour les danseurs hein, aussi.
Oui, mais je pense qu'on n'est pas indemne, on n'est pas vacciné contre la beauté.
Heureusement qu'il ne faut pas que ce soit moche. Ce serait quand même un comble que pour avoir une légitimité, il faudrait que tu peignes que des trucs moches.
Oui, mais le problème c'est que, et c'est ça que je me remets en cause, c'est que parfois, quand on mise à que sur la beauté formelle, et on risque de rester que là. Donc, rester là et je essaye de véhiculer. Par exemple, dans ces portraits que tu viens de signaler, c'est la beauté d'une belle noire et où la gueule est un peu boursouflée, un peu gonflée, mais la texture et le volume n'est pas donné par l'estompe, que c'est une technique de la Renaissance, n'est pas donné par un modelé de visage lissé, mais plutôt par une accumulation optique des lignes. Donc, j'essaye de donner cette représentation formelle de la beauté, mais à travers des textures qui ne sont pas habituelles. Une manière de faire de la topographie ou de la cartographie d'un visage. Et bien sûr, j'admets, je reconnais que j'accepte ta dose de beauté parce que on vit dans une société ou dans dans un contexte où la beauté est nécessaire. Mais elle change aussi. Parce que pour certains, la beauté, ça va être peut-être la putréfaction, ça pourrait être plutôt la souffrance. Ben, moi, j'opte pour ce type de beauté, mais j'essaie, je répète, de ne pas rester là.
On écoute un tout petit peu de musique, un tout petit extrait d'Eza, juste comme ça, là, parce que Eza, ils seront en concert tout à l'heure à 19h15, concert gratuit, concerto au Rio Grande. Et ça va quand même, on va le laisser en musique derrière nous, comme ça. Ça va nous permettre de savoir si quand tu peins ou quand tu dessines, tu aimes avoir de la musique comme ça, par exemple, comme ça, là.
Oui.
Alors, on est encore en compagnie de Rosane Dolly, qui expose à la mairie de Tournefeuille jusqu'au 14 février, et à la médiathèque également de Tournefeuille. À la mairie, c'est les petits portraits, à la médiathèque, c'est les grands formats.
Ah, pardon, une petite précision, à la mairie, il y a une exception, deux exceptions, c'est les portraits de Neruda et les portraits d'Allende, qui sont en grand format, c'est-à-dire 2 mètres par 2 mètres.
D'accord. Près. C'est important ces deux personnages-là pour toi, Neruda, Allende.
Oui, bien sûr. Et Neruda parce que c'est le poète d'abord, comme tout à l'heure, j'ai découvert l'amour, je me suis guéri des frustrations amoureuses grâce aux paroles de Neruda, c'est le grand romantique de l'Amérique latine. Et après, je l'ai apprécié par son combat politique, bien sûr, et Allende par sa vision du socialisme au Chili et à l'Amérique latine en général.
Il nous reste quoi? Une petite minute, 2 minutes, ouais. Je voudrais qu'on aborde cette conférence que tu vas faire sur le portrait peint ou dessiné.
Ah oui. Et donc, il y a la question, parce que j'envisage les portraits à niveau formel des deux points de vue, c'est-à-dire à niveau des contours, des traits qui vont suivre la configuration physique, formelle, ou la ressemblance anatomique du modèle. Et l'autre qui est par la couleur, qui est par la tache. Donc souvent on fait la différence entre un portrait graphique qui est à base de lignes et les portraits plastiques qui est avec les formes, les textures et les couleurs. Donc, une fois que je fais la présentation de cette ces sujets de la manière graphique et plastique, je passe à analyser comment on réussit académiquement par les méthodes académiques, les différentes expressions des visages, l'expression psychologique et les enjeux qui donnent un contexte. Pardon.
C'est difficile de dessiner un portrait.
Et pour moi, c'est difficile parce que je ne suis pas spécialisé dans les portraits formels, dans le sens propre du terme. Je fais plutôt, quand je croque, comme on le fait pour les festivals et pour les conférences ici, et je le fais plutôt, je m'appuie sur les paroles et sur la coiffure, l'habille, ou les contextes.
Il va y avoir une ressemblance dans le croquis, quoi.
Dans les croquis, oui. Parce que si je m'attache
Quand je vois ce portrait, là, d'Aliende,
Ah oui, parce que je suis passé beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis pas doué comme les peintres qui se trouvent à Montmartre ces musées Georges Pompidou.
À Beaubourg.
Mais là, ils sont très doués. En 2-3 minutes, ils te réussissent la ressemblance physique, formelle. Tandis que moi, je ne peux pas faire ça. Je essaye de compenser cette absence d'habilité formelle par plutôt choper les mots, la phrase ou les contextes. Tu as vu comment ça marche.
Alors, l'exposition est à voir. Enfin, les expositions sont à voir à la mairie de Tournefeuille et à la médiathèque. On rappelle la date de la conférence. Ce sera le samedi 8 février à 15h à la médiathèque de Tournefeuille. Tout ça se fait dans le cadre du 17e festival Kubahoy, terre de rencontre, les 7, 8, 9 février. Il y a des expos, des stages, des spectacles, des concerts. Et il y a Rosendoli.
Merci, Rémi.
Bon, ça se passe bien, les rendez-vous de Rosendo, le dimanche à 13h.
Ah oui, justement, à 13h, si tu permets que je fasse un petit coup de pub. Et on a parlé sur la danse contemporaine de Aïka Suleymanova, qui est une artiste, une danseuse classique et contemporaine. Et aussi, on a abordé un peu l'actualité de Tarn-et-Garonne avec la cuisine, qui avait fait les portes ouvertes samedi dernier avec une table ronde.
Le centre d'art contemporain de Nègrepelisse dédié aux arts de la table, c'est ça. Si Rosendo dit on a, et que vous l'avez pas encore entendu, c'est tout simplement parce que l'émission a été enregistrée et qu'elle sera diffusée ce dimanche à 13h.
Merci Rémi.
Merci Rosendo d'être passé.
Merci à toi.
Bien,
Aurélien aussi.
On écoute quelques mesures avant les infos de ESA, puis on vous rappelle que c'est tout à l'heure à 19h au Rio que c'est un concert gratos. À 20h30, allez, si vous habitez pas loin, vous êtes à la maison.
Dans un instant, le grand retour de Monsieur le Baron Kansai.
Et son chapeau.
C'est Afrique, mon Afrique.
CFM.
Il est 18h, il vous tape.